17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous retrouver dans ce grand témoin. Aujourd'hui avec Jacques Cheminade. Bonjour Jacques, merci d'être parmi nous. Jacques Cheminade, vous êtes une grande personnalité du monde politique et du monde culturel, artistique, et puis engagé, militant, puisque vous avez été à plusieurs reprises candidat aux élections présidentielles. Aujourd'hui, vous avez un passé qui parle un peu pour vous, une histoire. Vous avez été membre du Parti Ouvrier Européen, qui aujourd'hui est devenu Solidarité et Progrès. Et vous continuez à 80 ans à battre un petit peu votre coulpe et vous avancez en essayant de faire avancer un peu les idées, les choses. Vous êtes un combattant de la liberté. Alors, déjà tout de suite, aujourd'hui, les campagnes présidentielles, c'est fini.
C'est pas fini du tout. En tant que effort d'exercer une influence pour changer un peu les choses, parce qu'une campagne présidentielle qui est nourrie par des ambianceurs, par les Zemmour, les gens de LR, Macron, qui aucun de ceux-là ne posant les vrais problèmes et les vrais défis internationaux et nationaux.
Alors c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous dites pour changer les choses. Vous avez l'impression qu'avec le score que vous avez fait régulièrement en campagne, qui était des scores infinitésimaux, que vous changiez les choses?
Je crois qu'à la maison de la sagesse de Bagdad, on ne jugeait pas selon les statistiques. C'est les Keynes ou les libéraux qui jugent selon les statistiques. Moi, je juge selon la capacité des idées à transformer le monde.
Un influenceur avant l'heure que vous étiez, c'est ça?
Non, pas un influenceur. Quelqu'un qui cherche à redonner confiance aux autres dans leur capacité de penser, qui se laisse pas inonder, détourner ou même enfumer par les médias dominants et par la pensée dominante, qui aujourd'hui, plus que jamais, exerce ou tente d'exercer une véritable tutelle sur les êtres et les choses, sur les gens.
Alors, et Jacques Cheminade, aujourd'hui, la France est menacée?
Oui.
Il y a une menace qui plane sur la France?
Oui, elle est certainement menacée dans son être, c'est-à-dire que ceux qui ont dirigé la France au moins depuis 50 ans n'ont pas eu une certaine idée de la France.
Leur véritable idée... C'est De Gaulle qui parle, c'est Jacques Cheminade, De Gaulle qui parle.
Non, c'est
une certaine idée de la France.
Contre le Mitterrando chiracisme, c'est-à-dire l'adaptation de la France à la mondialisation financière, en masquant cette adaptation, en ne disant pas, sous l'Europe, et en utilisant comme couverture l'Europe. Alors on dit Europe, 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 mais en fait ce n'est pas du tout de l'Europe, il s'agit d'une Union européenne qui est tout à fait vassalisée par un monde international de la finance, qui est à Wall Street, qui est à la City de Londres, et pas à la civilisation européenne dans ce qu'elle a d'exceptionnel, en ce qu'elle est par elle-même et en ce qu'elle était pénétrée par d'autres influences pour être plus grande qu'elle-même.
Alors deux choses dans ce que vous dites. Vous dites déjà la finance. Donc votre combat a toujours été une espèce de lutte contre l'oligarchie financière. Alors ce sont les banques qui dominent le monde de la finance. Donc c'est votre combat.
Ce ne sont pas les banques.
C'est votre combat toujours, ça.
C'est une oligarchie financière qui a transformé le système bancaire en casino, régi par des algorithmes. Je crois que ça ferait sourire à Al-Khwarizmi qui a inventé les algorithmes.
Il y a une financiarisation des idées, c'est ça?
Idée de l'être humain qui est pas humaine, c'est-à-dire qui n'est plus attaché à la capacité de créer, de connaître l'univers et de le développer pour le bien des autres, pour le bien commun, mais un univers dans lequel une oligarchie cherche à transmettre une idéologie qui est ce que un pape, je crois que c'était Jean-Paul II, avait appelé la culture de la mort, c'est-à-dire une culture fascinée par la mort. On voit aujourd'hui dans Squid Game ou dans Hunger Games ou dans tout ce qui est balancé pour la jeunesse, qui crée une culture où il devient très difficile pour les jeunes de se concentrer leur attention parce qu'elle est distraite par une fascination pour les images, une société des écrans.
Ça, c'est un peu abstrait ce que vous nous dites. Ça veut dire qu'une oligarchie...
Dans la gueule, pense pas que c'est abstrait.
Une oligarchie qui est coupée du peuple. Parce que dans tous vos débats, dans tous vos meetings, vous dites qu'il faudra redonner le pouvoir au peuple. Vous dénoncez cette oligarchie, cette mondialisation. Donc cette oligarchie est coupée du peuple, c'est ça? Et vous voudriez que le peuple reprenne le pouvoir?
Non, je pense pas que le peuple est bon en soi. ce qui inspire le peuple doivent redonner au peuple confiance en lui-même. Aujourd'hui, le peuple a été tellement manipulé, tellement enfumé, qu'il ne sait plus où aller. On l'a vu dans ces manifestations contre le pass sanitaire, où les uns disaient
on va en parler dans un instant.
C'était une très grande confusion. Et tous les réseaux sociaux, tout Internet qui envahit les choses et permet à toutes les opinions d'aller dans tous les sens, avec Mark Zuckerberg dominant précisément les algorithmes, créant des algorithmes de telle façon que ce sont les rancœurs, les ressentiments qui prévalent, et pas la création humaine. Et il faut redonner ce sens à la création humaine, que tout être humain porte en soi. C'est pour ça que je suis optimiste, parce que je pense que tout être humain a cette volonté de création.
Alors, le deuxième élément dans votre propos aussi, c'était vous avez parlé de vassalisation. Donc, que la mondialisation prenait le pas sur un peu les nations. Donc, ça veut dire que vous êtes un souverainiste ?
Je suis souverainiste en ce sens que le vrai souverainisme, c'est une nation qui donne l'exemple. De Gaulle, lorsqu'il était en 1943 à Alger, disait que la France manquait au monde, ce qui était vrai avec sa culture, sa civilisation, mais que le monde manquait à la France. C'est-à-dire que la France n'est elle-même que si elle s'est pénétrée par le meilleur des influences étrangères et à l'intérieur d'elle-même avancée. La France est une idée, c'est pas une racine, c'est une idée et une source.
Alors comment vous conciliez cela avec votre défense de l'Union européenne ? Parce que vous mettez en avant l'Union européenne.
J'ai toujours combattu contre l'Union européenne. L'Union européenne, l'euro et l'OTAN, pour moi, c'est un train fou.
Ouais, mais enfin, vous dénoncez cette Union européenne dans laquelle la France se perd dans le cadre de la mondialisation, mais vous auriez souhaité que ce soit une autre Union européenne ?
Non, je souhaite qu'il y ait une véritable convergence des civilisations dans quelque chose qui définisse pour le monde un projet commun. On est à l'heure d'Internet, à l'heure des communications, donc on a dépassé les lignes maginot des nations. Mais ce que les nations portent en elles-mêmes de positif, c'est-à-dire la possibilité de voter, la possibilité de se décider, la possibilité de penser avec une langue, avec des idées, cela doit être offert au monde et pas pris comme quelque chose qu'on a pour soi en rejetant les autres. Et je suis très inquiet par l'évolution des choses dans le monde, où de plus en plus on devient défensif, et on ne pense plus en termes de l'avantage d'autrui, ce qu'il faut offrir aux autres. S'il y a eu une paix en Europe, à un certain moment de l'histoire, c'est par le traité de Westphalie de 1648, qui était basé sur le pardon des offenses et l'avantage d'autrui. On en est bien loin aujourd'hui, et il faut rebâtir un monde de développement mutuel.
Alors, pour comprendre un peu qui vous êtes et ce que vous faites, donc vous avez été le leader du Parti ouvrier européen, qui aujourd'hui est devenu Solidarité et Progrès. J'aimerais bien que vous nous expliquiez ce que c'est. Bon, je sais que vous militez pour la paix, vous dites que la paix ne peut se construire que dans le cadre du développement, mais on vous accuse beaucoup de conspirationnisme, d'être un petit parti sectaire. Donc, donnez-nous un petit peu votre vision du monde et vos programmes pour changer un petit peu le monde.
Je pense que ceux qui accusent Solidarité et Progrès et conspirationnisme ont eux-mêmes œuvré, en plein soleil d'ailleurs, c'est pas une conspiration, à cette mondialisation financière, et qui rejettent tout ce qui s'y oppose, y compris moi-même. On a dit, il y a un numéro même de l'Express, un autre du Point, qui a dit que j'avais introduit le conspirationnisme en France. C'est parfaitement absurde, parce que je défends avant tout la possibilité, par la raison, de parvenir à la connaissance, et cette connaissance de créer, c'est-à-dire trouver de nouveaux principes physiques, de nouvelles créations artistiques qui peuvent élever le monde, le changer, le transformer, et permettre à l'humanité de continuer. Or, les gens qui sont en place aujourd'hui sont dans l'histoire d'un monde fini. Moi, quand j'ai passé mon examen d'entrée, mon concours d'entrée à HEC, c'est une phrase de Paul Valéry. L'histoire du monde fini commence. Eh bien, on y est aujourd'hui dans les puissances occidentales. Heureusement, la Chine a une autre perspective, des pays du Sud ont une autre perspective, mais dans les pays occidentaux, on est arrivé au bout d'une conception du monde où on veut, par une vision géopolitique, rafler une grande partie de la mise, sinon toute la mise, au détriment des autres. Or, le développement mutuel, c'est ce qui doit permettre un avenir qui soit à la fois un avenir inclusif et un avenir où il y ait une connexion entre les différentes cultures. Et ces cultures, les unes avec les autres, doivent définir au-delà d'elles-mêmes une part commune. Et c'est ça l'avenir de l'humanité.
D'accord. Vous dénoncez à juste titre les pays occidentaux, qui est une forme d'empire. Ça c'est l'empire des États-Unis,
empire anglo-américain,
etc. Avec, et qui font ça au détriment du monde. Mais C'est naïveté que de penser que si la Chine se développe ou la Russie ou un autre partie du globe, elle se fera pas au détriment des autres. C'est un peu la loi de la nature, c'est la loi du monde économique. La Chine se développe, elle sera au détriment des autres.
Donc j'espère bien que non.
C'est quoi cette utopie là?
Il y a eu des moments de l'histoire où il y a des républiques qui sont pas développées au détriment des autres. C'est l'idée de la République française avant que Napoléon veuille imposer ses conceptions à tous les autres par les forces armées. C'est pas de cette façon que l'on doit procéder. Il y a les grandes idées, que ce soit dans le Bagdad de la Maison de la Sagesse, que ce soit au meilleur moment de la Renaissance avec Nicolas de Cuse ou plus tard Leibniz, la Renaissance plus tardive, en Chine, Confucius. Où toutes ces traditions-là peuvent très bien converger à notre moment de l'histoire qui est décisif. Parce que où on fait ça, où on est entraîné dans une chute qui risque de nous mener très loin, jusqu'à une guerre nucléaire qui est envisagée par l'amiral Richards, qui est le dirigeant des Stratcom américains, qui a dit, avant on avait établi que la guerre nucléaire c'était pas possible, maintenant on dit que c'est envisageable, on doit admettre que c'est envisageable.
On se retrouve dans un instant.
Les grands témoins reviennent dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
De nouveau avec Jacques Cheminade dans Les grands témoins. On a écouté un petit peu dans quoi vous étiez engagé, un petit peu ce que vous pensez de la mondialisation, de l'Europe, de la France. Peut-être arriver à des choses un peu plus précises. L'actualité est défrayée par la chronique, notamment aujourd'hui, des migrants, ce qu'on appelle les migrants, des gens qui sont aux quatre coins de la planète, notamment aux portes de l'Europe. La Méditerranée charrie chaque jour des milliers de réfugiés, des morts. Ça vient de Libye, ça vient d'Algérie, ça vient de beaucoup de pays, de l'Afrique subsaharienne. À Calais, on a aussi, entre la France et l'Angleterre, on a des centaines et des centaines de migrants. En Biélorussie aujourd'hui, où ils essayent de passer en Pologne. Donc, ça vous inspire quoi, cette espèce de déferlement, comme ça, de population, de gens qui sont prêts à tout, y compris à mourir, pour venir en Europe? Qu'est-ce que ça vous inspire?
Ça m'inspire que c'est un monde qui a créé les conditions pour que ça se produise. C'est-à-dire que les pays occidentaux n'ont pas mené une politique de développement du monde. C'était le projet de Roosevelt aux États-Unis, comme c'était le projet
de
Gaulle.
Au contraire, ils ont colonisé et asservi les pays.
Ils ont non seulement colonisé, mais ils ont fait pire. Ils ont imposé une influence financière et ont, disons, créé des dirigeants de ces pays, de toutes pièces, qui étaient des dirigeants qui étaient à leur solde. On le voit en Afrique, où à l'origine, il y avait même dans l'école de la France d'outre-mer, on a créé des dirigeants qui auraient pu être de grands dirigeants, on les a éliminés. J'ai une très grande admiration personnelle pour Cheikh Anta Diop, par exemple. Qu'est-ce qu'on a créé à la place? Des dirigeants, souvent issus des forces armées, qu'on pouvait manipuler dans les pays d'Afrique de l'Ouest, ce qu'on appelle la France-Afrique. C'est financier et c'est aussi militaire. C'est un complexe financiero-militaire. Donc, c'est ça qui a créé les conditions. Et en plus, les guerres. On crée les conditions, il y a des guerres dans ces pays. Des guerres aussi absurdes que les guerres qui ont ravagé tout le Moyen-Orient. Donc ça, c'est l'idée, si vous voulez, du choc de civilisation qui a été lancé par Bernard Lewis, après développé par beaucoup d'autres, et qui pensait qu'une civilisation et une autre ne peuvent pas coexister, ne peuvent pas cohabiter. Et que la plus grande, la plus puissante, c'est bien entendu la civilisation de langue anglaise, anglo-américaine, et que celle-là devait prévaloir dans le monde, avec ses alliés, y compris la France. Donc cette conception du monde est finie aujourd'hui, et il y a une très grande chance, à notre sens, de la terminer à propos de l'Afghanistan. L'Afghanistan a un régime de talibans qui n'est pas le régime que je souhaiterais, mais il existe. Donc il faut que ce pays soit développé. On ne peut sortir de cette situation qu'on parle développement. Cela ne peut être fait que s'il y a une alliance, et elle s'est ébauchée, elle n'est pas suffisante, entre la Russie, les États-Unis, la Chine, le Pakistan, et la France devrait y avoir sa part. Elle ne l'a pas pour l'instant. Donc c'est redonner des conditions à ce pays et à tous les pays du monde qui souffrent d'un système de santé qui marche, d'un système d'alimentation qui marche. Et alors oui, vous pourrez avoir la paix et une politique de migration qui sera choisie. Celle d'aujourd'hui n'est pas choisie.
Mais c'est quoi la paix? Ça veut dire, la paix, en fait, c'est une non-guerre. La paix, c'est
la
quoi?
Paix, non, c'est pas une longue guerre.
C'est quoi la paix?
La paix, c'est créer les conditions d'un développement mutuel où la création humaine, on crée de nouveaux principes physiques, après de nouvelles technologies, on produit plus et mieux avec
paix,
moins.
La paix entre qui et qui?
C'est la paix entre tous les pays de la planète. Aujourd'hui, c'est le défi. Mais aujourd'hui, mais on si voit vous voulez simplifier les choses, c'est la Chine et les États-Unis.
On voit bien qu'aujourd'hui, la multilatéralité qui avait été décrétée par la Société des Nations devenue l'ONU,
oui.
À le bas de l'aile, on est rentré dans un nationalisme exacerbé avec des, oui. Avec des bilatéralités, oui. Et des règlements de compte. Dixit, la France et l'Angleterre, l'Australie, la Pologne, la Hongrie, le Mexique, les États-Unis.
On est entré dans un système qui est
celui... Dire, ça s'éloigne de la paix, ça.
Ça, parce que c'est un système de celui qui est une oligarchie financière et idéologique.
On s'éloigne de la paix, c'est pas la paix qui arrive,
pour
c'est
régner.
La guerre.
On est en plein dans le divisé pour régner. Et on dit que les cultures sont incompatibles. On ne reconnaît même pas qui en France connaît la culture chinoise, qui en France connaît la maison de la sagesse de Bagdad, qui en France connaît l'histoire même de l'Algérie, qui en France connaît l'Amérique latine et son histoire. Il n'y a plus cette curiosité pour l'autre. Ça, c'est une autre chose qu'il faut développer. La curiosité pour l'autre et la nécessité de le connaître et le comprendre. Parce que si on ne connaît pas l'autre, on ne se connaît pas soi-même.
Mais au-delà de ça, c'est pas parce qu'il y a une espèce de non-belligérance entre les États, qui est une espèce comme ça de statu quo, les gens à l'intérieur de ces pays sont en guerre. Ils sont en guerre pour leur développement, ils luttent contre la famine, ils luttent pour élever leurs enfants. La preuve, c'est qu'ils sont prêts à s'embarquer dans des embarcations de fortune pour aller vivre ailleurs. Les gens vivent une situation de guerre, de crise interne, de guerre économique, de guerre sociale, climatique, etc. Elle est à l'intérieur de ces populations.
Le nouveau nom,
elle est où la paix?
Le nouveau nom de la paix, c'est le développement économique mutuel. Et si vous n'avez pas ce développement mutuel, vous avez une guerre intérieure. Et vous aurez les chiites contre les sunnites, et vous... Dans le monde arabe, vous oublierez tout sur, à mon avis, le courant qui est le plus intéressant, le mutazilisme, qui est au moment de la Maison de la Sagesse à Bagdad, avec Al-Mansour, Al-Mamoun et tous les grands califes. Donc il faut revenir à cette histoire, les grands moments, pour s'en inspirer. Et en France, il faut revenir à Louis XI, qui a été le meilleur roi de France, pas Louis XIV, pas Napoléon, Louis XI, qui essayait de développer quelque chose qui serait dans le bien commun, dans l'intérêt mutuel. Et il faut redonner aux gens le sens de cette histoire. Aujourd'hui, avec toute cette société des écrans, on a détruit le sens de l'histoire pour avoir les gens. Les gens peuvent écouter Zemmour, ou peuvent écouter Marine Le Pen, ou peuvent écouter les gens LR ou Macron, mais s'ils n'ont aucun sens de l'histoire, ils ne peuvent pas les juger réellement.
Alors, en tout cas,
de l'histoire où ça a été possible, où la paix par le développement mutuel était possible.
Jacques Cheminade, en tout cas, le sens de l'histoire, on a l'impression que c'est plutôt du rétro-pédalage, puisqu'on a vu, on a cité la Société des Nations, l'ONU, la Charte des Nations Unies, la Société universelle des droits de l'homme, ensuite la 1982, etc., la Charte du Canada. Mais aujourd'hui, on a fait du Schengen, on a fait la libre circulation des hommes et des idées. Aujourd'hui, on parle de Schengen 2, Schengen 3, de rétrécir la capacité de voyager, de mobilité. On parle d'ériger des murs. Lorsque Donald Trump voulait faire un mur avec le Mexique, ça a été le holà, les gens se sont esclaffés, etc. Là, y compris même en Hongrie, aujourd'hui, on parle de mur avec la Pologne et tout le monde applaudit, la gauche, la droite. Oui, oui, il faut un mur en Pologne pour empêcher les... Je veux dire, si on est allé, voilà, on va faire des murs, les gens vont s'emmurer. Ça va être de nouveau les stratégie de citadelle assiégée.
On est toujours battu quand on construit le mur. Voilà, imaginons en France en 1940. Le mur ne protège pas. Les frontières, qu'est-ce que c'est? Ce n'est ni un mur, ni une passoire. C'est quelque chose qu'on établit pour créer une relation avec l'autre et la rendre meilleure. Ça, c'est une véritable sens de la frontière.
Moi, je dirais que la meilleure des frontières, c'est la libre circulation des gens. C'est
non,
une libre circulation organisée. En cas peut-être des Erasmus pour les
oui,
étudiants,
Erasmus,
pour les chefs d'entreprise, pour les artistes, etc. Des libres circulations organisées, bien sûr. Ça, c'est pas la
oui,
voiture balai.
Être organisé.
Mais la meilleure des frontières, c'est celle-là.
Mais regardez,
c'est la frontière humaine qui garantit
l'Europe.
Aux gens d'aller et venir comme ils veulent et de rentrer chez eux comme ils veulent.
Attention.
C'est quoi ces histoires de murs? Vous êtes pour des murs?
Non, je suis pas pour des murs. Je suis pour qu'une frontière soit reconnu, aménagé et vu comme un élément de communication avec l'autre au meilleur de ce qui est possible. Regardez, acte unique en Europe, 1986. Liberté de circulation des biens, des services, des personnes et des capitaux. Qu'est-ce qui a le plus circulé? Les capitaux. parce qu'on l'avait fait pour faire circuler les capitaux et créer ce système de la mondialisation financière que nous subissons. Dans ce système, on ne crée pas un développement mutuel, parce que mon ami américain Lyndon LaRouche, on en discutait dans les années 70-80, ce qu'il disait, il y a une mondialisation financière qui se met en place, un système financier. C'est le court terme, c'est le bénéfice immédiat, c'est le gain, comme si dans une entreprise, pas ce qu'elle crée, mais sa situation financière définissait tout. Donc ça, c'est à l'échelle du monde aujourd'hui. Mais en même temps, si on attaquait ça, on était extrême gauche à l'époque ou très à gauche. Puis en même temps, il y avait quelque chose qui se créait, qui était une sous-culture, mettant l'accent sur l'immédiat aussi. C'est une sous-culture du sexe marchandise, de la drogue, et d'une musique bruit, des écrans. Là, si on l'attaquait, on était de droite ou d'extrême droite. Or, c'était la même chose. C'était deux formes ou deux pieds d'un même corps. On avançait sur le court terme dans la notion de la culture et sur le court terme dans la notion de l'économie. Donc, on va nulle part. On pensait de plus en plus à court terme. Aujourd'hui, voyez les hommes politiques français, vous avez l'impression qu'ils pensent au mieux à la prochaine échéance électorale, au pire, au prochain journal télévisé. Et on ne pense pas une pensée longue, créatrice. Une pensée créatrice se situe nécessairement dans le temps long.
Alors, la France va prendre la présidence de l'Union européenne au 1er janvier. Qu'est-ce que vous souhaiteriez, vous, par exemple, qu'elle prenne comme acte, comme initiative importante dans le grand chambardement actuel, mondialisation, toutes ces problématiques de migrants, etc. Qu'est-ce que vous souhaiteriez comme une espèce d'initiative un peu de rupture qui puisse aller dans votre sens pour construire la paix?
L'initiative la plus simple de rupture, c'est ce que même certains généraux français conçoivent, c'est de sortir du commandement intégré de l'OTAN et même de l'OTAN. L'OTAN n'a plus aucun sens. Il n'a plus aucun sens depuis la chute du mur. Voilà. Donc, il faudrait aujourd'hui avoir.
Mais on va vous brandir. On va tout de suite vous brandir l'épouvantail chinois et russe. On va vous brandir ça.
Oui.
Quoi, cheminade, vous voulez arrêter l'OTAN, mais alors les Chinois, les Russes, tout ça, ils attendent que ça pour venir nous envahir.
Et vous croyez que les Américains viendront vous défendre? La réponse est non. Vous avez vu l'Afghanistan? La réponse est non. Donc, même de ce point de vue-là, qui n'est pas mon point de vue, même de ce point de vue-là réaliste, ça ne marche pas. Ce qui marche, c'est d'avoir les moyens de défendre réellement sa souveraineté. Et la France a un siège à l'ONU, elle a des sous-marins nucléaires, elle est la seule puissance en Europe à avoir la puissance nucléaire. Elle doit plus laisser faire. Aujourd'hui, ce qu'on essaye de détruire en Europe, c'est la capacité pour les États d'affirmer leur indépendance. Regardez par rapport à la France, c'est le nucléaire. On essaye de créer en Europe les conditions, on sortira du nucléaire. Et la COP26, je le dirais franchement, est une entreprise mondialiste qui ne tient aucun compte de l'intérêt des pays les moins développés du monde ou même des pays relativement développés.
C'est du blablabla, comme a dit la...
C'est pire que du blablabla. C'est d'essayer d'imposer à des pays qui ont besoin du charbon de sortir tout de suite du charbon. Il faudra un jour sortir du charbon, mais sortir par le haut.
La Chine est re-rentrée dans le charbon.
Elle a raison pour son propre développement. Elle a raison, elle fait des mines de charbon qui sont moins polluantes, d'ailleurs on ne le dit pas, en Chine, et elle met l'accent sur le nucléaire. Nous, la France, qui coopérait avec la Chine sur le nucléaire, et les gens qui y ont été vous le diront, on a laissé tomber le développement de la Chine dans le nucléaire, et on a laissé tomber notre influence en Chine. Il faut la récupérer, il faut qu'on pas être évidemment devant la Chine avec un angélisme, non, bien sûr que non, mais il faut penser, comme De Gaulle pensait, à ce qu'on peut pas mettre tous ses œufs dans le panier de notre soi-disant allié américain et anglais, et en même temps, vis-à-vis des autres pays, et être dans cette agressivité que promeuvent tous les médias. Donc il faut être dans une situation qui permette, compte tenu des circonstances de la politique internationale, notre indépendance, il faut, en jouant l'un contre l'autre, mais surtout en élevant le débat, pour ce qu'on peut faire en commun. Ça, c'était la base des Nations Unies, et c'était la base, en France, de l'idée de République.
On se retrouve dans un instant.
Les grands témoins reviennent dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
De nouveau avec Jacques Cheminade qui est notre grand témoin du jour. Alors, on a parlé de la Chine, on a parlé du charbon, des énergies actuellement. Ce discours sur les énergies, on voit bien qu'il est un peu ambivalent. D'un côté, on dit qu'il faut mettre en avant les énergies alternatives, propres, décarbonées. Et de l'autre côté, on voit la Chine qui revient au charbon. On voit les Américains qui exploitent le gaz de schiste, pour pas parler des pays d'Afrique du Nord ou autres qui exploitent aussi le gaz de schiste. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est compliqué là de s'engager vers une de respecter l'accord de Paris, d'aller vers une énergie décarbonée et puis le réchauffement climatique est inéluctable?
Non, et il faut bien distinguer deux choses. D'une part, la question climatique, et d'autre part, la question de la pollution. La pollution est provoquée par l'homme. La question climatique, non. Non, parce qu'on vous raconte des tas de sornettes sur ça.
Le gaz à effet de serre, il est issu de la pollution qui, lui, contribue au
réchauffement climatique. Non, le CO2 n'est pas un problème. Là, il y a un grand mensonge qui, aujourd'hui, est répandu pour dire c'est le problème, donc il faut créer des énergies renouvelables. Ces énergies renouvelables, comme l'éolien ou le solaire, ne peuvent pas du tout maintenir le développement économique, ne peuvent pas du tout permettre la vie dans les pays du monde, en particulier les pays non développés, qui ont besoin d'énergie. Donc, l'avenir, c'est le nucléaire, mais pas le nucléaire qui s'arrête un moment à la fission. Le nucléaire comme une dynamique de la connaissance humaine appliquée pour le bien commun. Et c'est ce point de vue-là qu'il faut voir les choses. Alors, comment vous pouvez le faire ? Pas dans le système financier actuel tel qu'il est. Le système actuel tel qu'il est donne l'avantage aux intérêts financiers privés. On le voit partout. Donc, je dirais, premièrement, la séparation bancaire, ce que Hollande n'a pas fait, qu'il a dit qu'il ferait, qu'il n'a pas fait. Ou pire, il a fait une fausse réforme bancaire. C'est pire que tout. Donc, il faut une réforme bancaire qui sépare les banques qui investissent dans le crédit et dans les dépôts, qui sont dans les dépôts, et pas celles qui investissent sur les marchés financiers. Or, aujourd'hui, de plus en plus, les banques investissent et jouent sur les marchés financiers. On émet de la monnaie pour maintenir un système qui est de la monnaie de singe ou de la fausse monnaie, et ce système conduit directement à l'abîme. Déjà, Wells, dans un film qu'il avait fait en 1936, enfin, il avait écrit un livre en 1933 et en 1936, au nom de l'oligarchie britannique, il disait qu'il y aurait une guerre dans le monde, il avait prévu la Deuxième Guerre mondiale, à cause de la crise financière. Donc aujourd'hui, on est à nouveau dans la même situation.
Il faut revenir au troc.
Non, pour revenir à la domination d'une classe privilégiée qui espère, au sortir de la guerre, être dans la domination. Aujourd'hui, ce n'est même plus possible. C'est qu'ils ont tenté après la Deuxième Guerre mondiale aujourd'hui, et c'est la conséquence, celle qu'on voit aujourd'hui. Ce n'est plus possible du fait de l'existence de pays qui ont un sens de leur avenir et qui ne veulent pas accepter ce monde-là. Qui veulent un monde où l'argent aille à l'école, à l'hôpital, au laboratoire, au développement économique, au travail humain. Et regardez la société d'aujourd'hui. Parce que à l'intérieur, qu'est-ce qui se trouve? Une sorte de discrédit jeté sur le travail humain. Il y a des gens qui parlent de burn-out, qui n'en peuvent plus à cause du travail qu'ils ont. Il y a des gens qui parlent du bore-out. On est tellement emmerdé par le travail qu'on fait qu'on n'en peut plus. Et d'autres même du brown-out. On est tellement confus qu'on ne sait plus ce qu'on fait. Eh bien, les gens sont empêchés de faire un bon travail pour leur avenir, celui de l'humanité, celui de leur famille. Ils sont empêchés, c'est un travail empêché. Donc, à l'intérieur du pays, il faut recréer ce sens de travail. Pour ça, il faut réorienter l'argent là où c'est possible. C'est pour ça qu'il faut une banque nationale. C'est pour ça qu'il faut un système de crédit productif public, un système de crédit public.
Donc, vous êtes pour une présence régalienne très forte avec un État très fort.
Oui, mais avec une participation du peuple. Une participation partout. Pas seulement comme les socialistes ont fait en 81, où ils ont étatisé, mais ils n'ont pas vraiment créé quelque chose pour la nation. Ils ont étatisé en mettant des gens dans le public, qui étaient les cousins germains ou la même formation que les gens qui étaient dans le privé. Donc évidemment qu'ils ont fait la même politique.
Le peuple, c'est quoi? C'est les gilets jaunes pour vous, le peuple?
Le peuple, c'est pas seulement les gilets jaunes. Le peuple, c'est quelque chose qui a un potentiel. Et ce potentiel est nécessaire, si on veut créer un avenir, de le faire s'affirmer et que les gens aient confiance dans leur potentiel. C'est comme un enfant. Un enfant n'est pas bon en soi. Il est bon s'il est dans un milieu qui rend sa créativité possible. Et tous les types d'enseignement qui marchent sont ceux-là. On l'a eu un moment en France, dans une certaine mesure. Maintenant, on ne l'a plus. On a un enseignement, une éducation nationale qui part en pièces. Donc il faut rétablir une éducation nationale, mieux payer les enseignants, bien sûr, beaucoup mieux, au moins au niveau de l'Allemagne. On est payé loin de ce que sont payés les enseignants allemands. Il faut mieux payer les infirmiers et les infirmières à l'hôpital. C'est ce que permettra ce changement de système financier. Aujourd'hui, l'hôpital est géré comme une entreprise. C'est déjà géré comme une entreprise avec un critère financier. C'est déjà aberrant. Mais gérer un hôpital comme une entreprise avec un critère financier, c'est encore pire. C'est géré par flux tendu. Ça ne marche pas. Le système ne marche pas tel qu'il est fait.
Alors, le fond de ma question, vous l'avez bien compris, cette mondialisation qui est en fait une dérégulation que vous...
Oui, exactement.
Que vous dénoncez, ouvre les portes, je veux dire, d'une espèce de... comment dire, d'une incapacité à gérer l'évolution. Et on va prendre deux choses. La pandémie, c'est-à-dire on n'arrive plus à gérer un petit peu... C'est un affolement général. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. C'est les choses... Chaque mois apporte son lot de contradictions. Et puis d'autre côté, un réchauffement climatique. C'est-à-dire que l'homme a généré des choses qui fait que, y compris la maîtrise de son destin, lui échappe. Donc comment gérer cette fuite en avant? Qu'est-ce que vous proposez?
Si on dit que les choses sont dues à une forme de fatalité, il n'y a rien à faire. Si on échappe à cette fatalité, et l'homme y a échappé dans toute son action dans l'univers... On y échappe parce que les gens s'organisent pour créer un monde meilleur, pour un développement mutuel. Comment ils peuvent le faire? Il faut dominer l'émission de monnaie. Vous savez ce que disait Georges Boris, qui était le conseiller de Mendès France, l'ami de Mendès France, et le conseiller de la France libre, de Gaulle. Il disait, si l'État ne contrôle pas la monnaie, c'est la monnaie qui contrôle l'État. C'est le cas aujourd'hui en Europe avec l'euro. Donc, comment faire? Il faut rétablir un contrôle de l'orientation de la monnaie pour... ce qui est utile et bon à l'être humain et à son développement, c'est-à-dire pour produire de façon plus dense. Le nucléaire, c'est ce qui permet de produire plus par être humain, par unité de surface et par gramme de matière apportée. Ça sera encore mieux quand il y aura la fusion thermonucléaire contrôlée. Donc il faut penser dans ce sens d'un avenir et pas penser à gérer le monde tel qu'il est avec les ressources qu'il a. Pour nous, pour mon ami américain Lyndon LaRouche et moi-même, c'est le potentiel de densité démographique relatif à la technologie utilisée qui permet le progrès. Et ce progrès de l'être humain, si nous sommes aujourd'hui presque 8 milliards d'êtres humains sur Terre, c'est parce qu'il y a eu cette capacité qui a été intégrée dans le monde et qu'il y a eu de grands penseurs qui l'ont intégrée et qui l'ont communiquée et de grands politiques qui ont adopté avec ces grands penseurs cette vision du monde. Aujourd'hui, on ne l'a plus, elle est perdue. Donc il faut la rétablir et la rétablir politiquement, ça ne se rétablit pas dans les nuages.
Jacques Cheminade, on a commencé cette émission en disant est-ce que la France est menacée, est-ce qu'on vit dans une dictature? Et je ne vous ai pas beaucoup entendu parler dans cette émission, vous n'avez pas prononcé le mot de démocratie, vous n'avez pas prononcé le mot de citoyenneté, ce qui m'étonne un peu de votre part. Et aujourd'hui, je n'ai pas aussi senti, enfin je n'ai pas entendu cette volonté, en tout cas chez quelqu'un comme vous, de faire progresser les droits, les droits, la liberté, l'égalité, la fraternité. Comment on fait, dans le cas de ce que vous dénoncez, comment on fait évoluer le droit? Comment on fait évoluer l'acquisition de nouveaux droits, etc.?
Là, on s'aplatit pas devant la common law anglo-saxonne. On s'aplatit pas devant cela. On est en accord avec un droit qui a été inspiré par la logique grecque, en certaines mesures par la façon romaine d'organiser une société, et surtout par des éléments de droit canon qui sont pas venus seulement du monde chrétien ou catholique, qui sont venus de tous les grands humanismes tels qu'ils ont été réadoptés à la Renaissance. C'est le droit civil.
Sans arrêt l'équilibre entre les droits naturels et les droits juridiques.
C'est le droit naturel qui doit inspirer les droits juridiques. Mais le droit naturel, on n'y est pas du tout. On est au contraire.
En tout cas, le droit naturel doit être protégé par le droit juridique.
Oui, bien sûr. Il doit être protégé par les droits juridiques. Et c'est changer de droit. Alors, je dis, il y a quand même un grand progrès, c'est la situation des femmes. Si on pense à l'époque où j'avais 20 ans, les femmes mariées n'avaient pas le droit à un carnet de chèques. Il y avait toute une domination patriarcale. On en est sorti.
Je crois que c'est depuis 75, non? C'est récent le carnet
de
chèques.
Oui, c'est très récent. Et le droit de vote des femmes, c'est de 46. Donc c'est récent aussi. Donc il y a un progrès, mais ce progrès est bafoué par la fixation sur les perceptions et le corps biologique de la femme. Donc, il faut sortir de cette vision qui est une vision de perception, d'apparence, et passer à une vision qui est celle des idées, et qui est enrichie par les émotions fondamentales qui inspirent ces idées. Ça veut dire que aujourd'hui, il faut bien voir que ce qu'on essaye de nous balancer comme étant quelque chose créé par l'homme parce que l'homme est pollueur, parce que l'homme est prédateur, parce que ceci, parce que cela... Il l'est au niveau de l'oligarchie. Mais les êtres humains en général ont créé ce monde où nous sommes. Donc il faut revenir aux manières, aux raisons par lesquelles ils ont pu le créer. Et ça, il faut le voir dans toutes les grandes cultures, et le mettre ensemble, c'est ça le défi de la période dans laquelle on rentre, et de donner un droit de citoyenneté à chacun. Un citoyen, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui participe à ce qui est fait pour lui. C'est pas d'autres qui le font. Or, en France, on a complètement, déjà, la constitution de la Ve République était faite pour les conditions de 1958-1960, mais elle a complètement bafoué. Regardez quelque chose de très simple que je ne cesse de répéter. Aux élections présidentielles de 1965, on donnait 1 million d'euros aux candidats qui avaient obtenu 100 signatures. Aujourd'hui, il y en a 500, ça je ne conteste pas. Je pense qu'il faut une sélection. Mais qu'est-ce qu'on donne? On ne donne pas une avance d'un million d'euros. On donne une avance d'un million de francs, pardon. On donne une avance de 150 000 euros. En pouvoir d'achat, le million d'euros de 1965, c'est 1 250 000 euros. Donc aujourd'hui, on donne 150 000. Donc ceux qui ont déjà de l'argent l'emportent. D'ailleurs, on a dit, on prend la notion d'équité et on la renverse. La notion d'équité, c'est pour assurer un droit aux minorités dans le droit anglo-saxon. Là, en notion d'équité, on dit oui, on donne la parole à ceux qui l'ont déjà beaucoup pris auparavant, à ceux qui ont déjà un parti et à ceux qui ont de l'argent. Donc on a complètement renversé les choses, et le dessin même de ce pays, reflété par cela dans la présidentielle, est un dessin conservateur, alors qu'on ne s'étonne pas s'il y a des Zemmour, s'il y a des Pécresse ou des gens de ce calibre-là.
En tout cas, Jacques Cheminade, merci d'être venu. On aura l'occasion de vous recevoir avant les élections présidentielles et peut-être de parler un peu plus en détail de la politique française. Merci d'être venu et à très bientôt.
Merci à vous.
Retrouvez les grands témoins tous les dimanches de 17h à 18h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.